passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Au cours des 50 dernières années, des progrès remarquables ont été enregistrés en matière d'efficacité des traitements des cancers pédiatriques dans les pays qui bénéficient de systèmes de soins performants. Ces avancées thérapeutiques ont permis qu'aujourd'hui, le taux de survie dépasse les 80% chez les enfants et les adolescents, tout cancer confondu. Des cancers spécifiques, neuroblastome, leucémie, lymphome de Burkitt, et qui nécessitent par conséquent des programmes de recherche ciblés, des traitements adaptés. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons précisément parler de ces progrès médicaux et de ce qu'ils impliquent pour les jeunes patients et pour leurs familles. Après le diagnostic, l'hospitalisation, des traitements souvent lourds, viennent les résultats et le suivi. Après l'angoisse et le séjour au sein d'un service spécialisé, reprendre confiance, faire des projets, prendre aussi des distances avec la maladie. Est-ce possible pour soi, pour son entourage? Quelles traces en garde-t-on? Quelles séquelles? Quels souvenirs? Nous allons donner la parole aux premiers concernés, ces jeunes qui parlent de cette maladie au passé. 80% de taux de survie des enfants et adolescents. Une évolution positive qui ne doit pas occulter le fait que ces cancers pédiatriques constituent aujourd'hui encore la première cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Et que, comme le montre une enquête de la revue Le Lancet, près d'un enfant sur deux atteint d'un cancer n'est jamais diagnostiqué ni traité. Approche globale pour renforcer le soin, la recherche, soutien aux aidants, formation des soignants et droit à l'oubli, on va en parler. Vivre après le cancer, quatre invités avec nous aujourd'hui dans le studio de Priorité Santé. Je commence par le plus jeune et c'est vous, Ahmed, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous voyez, ça va être compliqué de faire avec les personnes. Je suis tentée par le tutoiement. Vous êtes âgé de 15 ans. À 12 ans et demi, les médecins vous ont diagnostiqué un lymphome de Burkitt. Depuis un an, c'est la rémission. Et à votre côté, votre maman, Sémilée Osberg. C'est bien comme ça?
Oui.
C'est correct. Bonjour.
Merci,
madame.
Bonjour.
Avec nous également, Baptiste. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui âgé de 20 ans, en rémission depuis 5 ans.
25 ans.
25 ans. Ouais, 25. Ouais, vous faites jeune. d'un lymphome non-Hodgkinien, lymphome de Burkitt non-Hodgkinien. C'est à vous qu'il reviendra nous expliquer de quoi il s'agit précisément. Docteur Jean Michon, bonjour.
Bonjour.
Pédiatre, oncologue à l'Institut Curie, directeur médical et scientifique du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Et tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Chantal Bouda, pédiatre-oncologue spécialiste des lymphomes de Burkitt à Ouagadougou.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on va commencer avec ce chiffre que je viens de citer, taux de survie des enfants et adolescents atteints d'un cancer qui dépasse les 80%. Docteur Jean Michon, à quoi correspond exactement ce chiffre?
C'est une moyenne.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire qu'il y a des pathologies où on guérit plus de 90%. Il y a des pathologies où on guérit de l'ordre de 70, d'autres 50, d'autres 40 et d'autres où on guérit personne.
Il y a une tendance, c'est quand même l'efficacité de plus en plus importante de la prise en charge. Je ne sais pas si ce sont les traitements en particulier, en tout cas cette prise en charge. Est-ce qu'on peut justement décrire ces projets, ces progrès qui ont été enregistrés au cours des 50 dernières années?
Alors, il y a deux types de progrès. Il y a d'abord des pathologies pour lesquelles on a réellement fait un saut, un bond en avant en termes de pourcentage de guérison dans les 50 dernières années, dont le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome particulier qui souvent touche les ganglions du tube digestif, on va dire, tout pour être simple, et puis parfois la mâchoire et peut donner des leucémies. Et ce lymphome, il y a eu un progrès énorme qui a été fait au début des années 80. On est passé d'un taux de guérison qui était autour de 25% à un taux de guérison qui était à 80%. Puis progressivement, on est remonté ce taux de guérison. Et le deuxième type de progrès qu'il y a eu par la suite, à partir des années 90, milieu des années 90, ça a été une désescalade pour certaines formes de ce lymphome de Burkitt, où on a pu désescalader certaines thérapeutiques. Il y a eu une première désescalade en 84, une deuxième désescalade en 96. Cette désescalade n'a pas marché pour toutes les formes.
Ça veut dire des produits moins puissants, des traitements moins longs, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est des doses moins grandes, qui donc permettent d'espérer que la fertilité pour les garçons sera meilleure par la suite, première chose. et aussi pour les garçons comme les filles, des doses moins grandes d'un autre médicament qui s'appelle l'adriamycine ou doxorubicine, qui peuvent avoir une toxicité cardiaque. Donc on a gagné à la fois en nombre de personnes guéries et aussi en qualité de la survie des personnes guéries. Ça, c'est un exemple typique. Puis l'autre exemple, c'est l'exemple de la stagnation dans les résultats pour des maladies comme les tumeurs du tronc cérébral. Ce sont des maladies certes rares, mais quasiment toujours mortelles.
Docteur Jean Michon, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directeur médical et scientifique du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Justement, si on regarde l'évolution en dehors des systèmes de santé des pays développés, est-ce qu'on a des données justement sur la guérison, par exemple, des cancers? Si je vous dis, en Afrique subsaharienne, on a des données ou pas?
Alors, on commence à avoir des données, puisque le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui a été créé il y a 19 ans à peu près, a mis en place des protocoles dans les unités qui ont été créées dans les services de pédiatrie des grandes facultés, des capitales, petit à petit au cours des années. Et donc, dans ces pays, on est arrivé à démontrer qu'il était possible de guérir des enfants avec des taux de guérison qui étaient un peu moindres que dans les pays plus riches, mais qui étaient tout à fait raisonnables, mais dans les formes, qui étaient des formes qu'on peut appeler de traitables, c'est-à-dire que c'était des formes qui n'étaient pas des formes diagnostiquées tard. Donc il y a encore des défis importants, c'est l'accessibilité au diagnostic pour les patients et aussi l'accessibilité au diagnostic précocement dans le cas de la maladie. En Europe, on ne voit plus les mêmes formes de lymphome de Burkitt qu'il y a 30 ans. On voit des formes qui sont plus diagnostiquées plus tôt. En Afrique, on est plutôt dans l'état de la situation dans laquelle on était il y a une trentaine d'années. Et voire plus, hein, voire plus compliqué. Donc il est important de se dire que le défi maintenant à relever, c'est pas seulement d'avoir démontré, c'est de voir qu'on peut étendre la population des patients traités. On traite environ 15 à 20% des patients dans les pays où il y a une unité. C'est très peu. Il faudrait arriver à avoir un objectif de traiter 50, 80, 70%, 100% des patients avec des traitements qui peuvent les guérir de la même manière qu'on arrive à le faire en Europe ou en Amérique du Nord.
Donc augmenter ses capacités. Alors on va insister dans cette émission sur les progrès, résultats de ces traitements et on va donner donc la parole à ceux qui justement ont pu bénéficier d'un bon diagnostic associé à un traitement efficace et aujourd'hui qui parlent de la maladie au passé. Ahmet, quand vous parlez de votre maladie aujourd'hui, vous voyez ça comme quelque chose de lointain ou c'est encore quelque chose qui est présent, dont vous avez du mal à vous détacher, à regarder ça comme finalement, c'est plus ma vie. Vous êtes passé à autre chose?
Oui.
Oui?
Oui.
Mais par exemple, dans le vocabulaire, quand vous en parlez, vous dites encore « je suis malade » ou vous êtes déjà passé à « je suis guéri ».
Je suis guéri.
Et ça se ressent comment? C'est quoi la différence dans, quand on se lève le matin, quand on se lève et qu'on dit « je suis guéri », qu'est-ce qu'on ressent de différent par rapport au moment où vous étiez encore malade?
Bah, quand j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Mais maintenant, comme je suis guéri, bah, le matin, quand je me lève à la maison. Donc, ça me prouve que je suis guéri.
C'est ça, la maladie, pour vous, elle est complètement associée à l'hôpital. Quand vous avez appris que vous étiez malade, vous êtes rentré à l'hôpital. Et en quelque sorte, la sortie de la maladie, c'est aussi la sortie de l'hôpital, le retour à la maison.
Oui.
Est-ce que ça continue quand même de faire partie de votre vie aujourd'hui, la maladie?
Oui, il y a des gens qui me demandent des fois comment ça s'était passé, qu'est-ce que tu ressentais. Bah, moi, je leur disais bah, ce que je ressentais. Et bah...
Il y avait de la peur?
Non. Je leur disais clairement, puisque c'était le passé.
Et cette maladie, justement, est-ce qu'il y a justement parmi, j'imagine, les personnes en classe, des personnes qui vous ont posé des questions en disant « bon, ben, c'est un cancer ». D'abord, est-ce qu'ils arrivaient à dire ce mot de cancer en parlant de votre maladie? Est-ce que vous arriviez à décrire? Est-ce que vous étiez renseigné pour savoir exactement ce que c'était cette maladie?
Bah, moi, pour moi, quand on disait cancer, c'était plus pour les vieux.
Mm-hmm.
C'était... Bah après, depuis que j'étais hospitalisée, je voyais que des enfants. Donc, j'étais un peu choquée. Et bah, y a des gens qui arrivaient à dire ce mot et d'autres qui étaient gênés.
Et vous en parliez entre vous, entre enfants?
Bah, pour ceux qui me posaient des questions, oui, je leur disais clairement. Mais ceux qui me posaient pas de questions...
Et des contacts ont été établis avec les autres enfants à l'hôpital, parce que peut-être que c'est plus facile de parler du cancer entre malades qu'avec des enfants qu'on voit et qui sont très certainement en bonne santé.
Oui.
Mais on a envie d'en parler ou on a plutôt envie de parler d'autre chose que de la maladie quand on est à l'hôpital?
On veut plus parler d'autre chose, mais ça soulage un peu de parler de la maladie.
Et on en parle avec qui alors?
Ça avec le docteur, avec les parents, les amis et la famille.
Juste, docteur Jean Michon, pour compléter sur ce lymphome de Burkitt, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes de symptômes? Comment également est-ce qu'il est diagnostiqué?
Il est diagnostiqué le plus souvent devant des signes digestifs, c'est-à-dire soit des douleurs du ventre, une masse qu'on perçoit dans le ventre, qui grossit relativement rapidement, peut même grossir très vite. Et on peut aussi avoir des manifestations de la maladie ailleurs que dans le ventre. On peut avoir, par exemple, une atteinte osseuse qui donne des douleurs osseuses. On peut avoir des déformations osseuses, en particulier en Afrique. La déformation la plus fréquemment connue, c'est la déformation de la mâchoire. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été décrit initialement. Et il peut y avoir aussi des signes de grande fatigue et de fonctionnement anormal de la moelle osseuse, comme dans une leucémie. Puisque dans ce cas-là, on parle à ce moment-là de leucémie Burkitt, parce que, par exemple, le nombre de globules rouges diminue, le nombre de plaquettes diminue, et donc ça fait faire le diagnostic, et on pense tout de suite, quand on a une masse abdominale dans le ventre, je veux dire, et ces taux de plaquettes qui diminuent, on fait le diagnostic. D'ailleurs, moi je connais une maman qui a fait le diagnostic toute seule en regardant sur Internet, elle est en face de moi.
C'est vous, c'est Emile Hausberg. Vous, le mot, je posais la question à votre fils, ce mot cancer, c'est quelque chose que vous avez réussi à prononcer ou c'était
non.
quelque chose que vous n'arriviez pas? Et
non,
aujourd'hui?
Je n'aime toujours pas ce mot.
Alors vous dites quoi?
Je dis toujours, pour moi, le CMI, c'est plus doux. Cancer, pour moi, le mot cancer, c'est un mot très très violent.
On a entendu, je m'excuse, juste votre fils là qui parlait avec une certaine distance, je dirais, de sa maladie. Est-ce que vous avez ressenti les choses différemment? Est-ce que finalement vous avez eu l'impression de vivre parfois les choses avec plus d'angoisse que votre propre fils?
Lui, il n'était pas angoissé du tout. Pour lui, alors lui me rassurait, c'est à moi de le rassurer, mais lui il avait pris le rôle de maman et moi j'étais devenue son enfant. C'est lui qui me rassurait en fait, il me disait « mais maman, t'as entendu le docteur Michon qui nous disait que c'était comme une grippe, ça allait passer ».
Est-ce qu'il disait vraiment
au
ça
début,
vous n'avez pas l'image mais il fait une petite grimace.
Oui, pour le rassurer au début, oui c'est ce qu'on lui disait. Mais après, pour moi, parce que lui en fait à mon avis, il n'était pas encore conscient de la gravité de sa maladie. Et moi, toujours, j'ai toujours cette angoisse en moi. Il suffit qu'il saigne du nez ou il suffit qu'il a une montée de fièvre. Moi, j'ai toujours cette peur en moi. Et le lendemain, je vais aller faire une prise de sang. Si je vois qu'il a une montée de fièvre, le lendemain, je vais aller faire une prise de sang.
Vous employez le terme de guéri?
Oui. Rémission totale, ça, c'est le mot que j'adore.
Vous vous souvenez du moment où on vous a prononcé cette formule magique?
Oui.
Vous pouvez nous raconter
très,
comment
très
ça s'est passé?
Alors, tout au début, déjà, rien que quand il a été diagnostiqué, quand on m'avait parlé de l'évolution de son traitement, quand le traitement, on m'a dit que ça marchait super bien. C'était votre interne, monsieur Luf, c'était un des internes. J'avais envie de le prendre dans mes bras, tellement que j'étais contente d'apprendre que le traitement fonctionnait. J'étais très, très contente. Et là encore, l'émotion, elle remonte. Elle remonte toujours. Moi, j'y suis toujours encore dans cette période-là. J'arrive pas à la surmonter.
En même temps, si c'est une bonne période,
oui.
Autant en profiter.
Voilà. Après, les bonnes périodes, et il y a toujours les mauvais, on s'en rappelle toujours. On a toujours ça dans un côté de notre cerveau qui nous dit « méfie-toi, fais attention ». On est toujours en alarme, en fait. Lui, il est passé à autre chose. Ahmed, il est... pour lui, c'est du passé. Il est passé à autre chose, mais moi, j'y arrive toujours pas.
Je me tourne vers vous, Baptiste. Vous aussi, votre maladie, vous en parlez au passé, aujourd'hui, complètement?
Oui, complètement. Oui, parce que déjà, c'était il y a 5 ans que j'ai été diagnostiqué puis traité à Curie. Et que, un peu pareil, mon médecin généraliste qui, à l'époque, avait vu les symptômes et m'avait envoyé après vers Curie, etc., m'avait un petit peu fait le speech aussi de c'est pas comme une grippe, mais presque, enfin, il faut le prendre comme une maladie commune. Parce que ça se règle assez facilement. Enfin, les chiffres pour le lymphome du non-Hodgkinien étaient assez optimistes, on va dire, au stade où j'en étais, où j'étais diagnostiqué. Donc, il m'a dit de pas avoir peur. Et puis, au final, c'est comme ça que j'ai suivi le.
Vos symptômes, c'était quoi précisément, Baptiste?
Alors, c'était pas du tout les mêmes que ceux dont vous avez parlé. C'était plutôt des grosses suées, beaucoup de hypersudation, beaucoup de démangeaisons, très fortes démangeaisons. Puis, à terme, j'ai eu un ganglion qui a enflé. Donc là, ça c'était carrément visible, quoi.
Alors. Justement, d'autres descriptions par rapport à une maladie, par rapport à l'autre, est-ce qu'on est face au même type de cas? Est-ce qu'il y a des différences aussi par rapport à l'âge à laquelle ce type de maladie peut se déclarer, docteur Michon?
Oui, il y a des différences. Hein. Le lymphome Hodgkinien, qui est différent du lymphome non-Hodgkinien, mais qui est un cousin germain, hein, surtout c'est des ganglions qui grossissent. De la fièvre, il peut avoir des démangeaisons. Et puis, dans les lymphomes non-Hodgkiniens qu'on rencontre chez l'enfant, qu'on peut rencontrer à des âges quand même très variés, hein, les pics de fréquence dans les âges sont pas exactement les mêmes pour les lymphomes Hodgkiniens, les lymphomes non-Hodgkiniens. Et il y a différents types de lymphomes non-Hodgkiniens avec des symptômes différents. C'est-à-dire que j'ai décrit les symptômes du lymphome de Burkitt, mais il y a un lymphome qui s'appelle le lymphome lymphoblastique, qui peut donner une masse dans le thorax, au-dessus du cœur, et qui comprime l'arbre respiratoire, et les symptômes vont être des symptômes respiratoires, une gêne pour respirer qui va rapidement évoluer. Et dans ces cas-là, on n'est pas du tout dans la même situation, c'est pas les mêmes traitements. Puis il y a un troisième lymphome qu'on connaît aussi en pédiatrie, un petit peu chez les adultes, qui s'appelle le lymphome anaplasique à grandes cellules, et qui lui donne des ganglions, contrairement aux tous les autres ganglions de tous les autres lymphomes, c'est des ganglions qui sont douloureux. Donc le médecin qui connaît les lymphomes peut très rapidement orienter ses explorations, orienter, même prononcer déjà des mots, non pas avant le résultat de l'analyse que va faire le pathologiste, qui va regarder le ganglion ou la moelle ou ce qu'il faut pour faire le diagnostic, il peut déjà être orienté dans une direction. Ce qui est important, c'est que les pronostics de la chance de guérir ces différents types de lymphomes, que ce soit Hodgkinien, non-Hodgkinien, des différents types, elles ont été très élevées donc dans les années actuelles. Mais il y a quand même des patients pour lesquels on n'arrive pas à guérir.
Alors, on parle de cancer pédiatrique. Ce qui est important de rappeler, hein, c'est une sorte de base, docteur Jean Michon, c'est que les cancers des enfants ne sont pas les mêmes que les cancers des adultes. Il y en a certains qui sont communs, mais en général, ces maladies sont bien particulières.
Très, très différentes. Un même organe peut être touché d'une manière complètement différente chez un adulte et chez un enfant, et par des maladies qui n'ont rien à voir. Par exemple, la tumeur du rein de l'enfant, ce qu'on appelle le néphroblastome, ou tumeur de Wilms, n'a rien à voir avec le cancer du rein de l'adulte. Donc c'est un des plus rares chez l'enfant, qui s'appelle le rhabdomyosarcome de la prostate. Eh bien, il touche la prostate et la vessie, mais ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate des hommes âgés.
Est-ce que ça entraîne aussi des particularités? On imagine bien sûr en termes de poids quand on a des enfants plus jeunes, mais au niveau des traitements, il y a des précautions particulières par rapport à ce stade de la vie qui est particulier.
Tout à fait. Donc chez les traitements sont définis aussi de manière assez empirique, hein, pour les doses à utiliser. Mais par exemple chez les tout petits, quand on a des cancers des tout petits à soigner, on utilise absolument des doses très précautionneusement, on utilise des doses moindres qu'on calcule en fonction du poids. Ça réduit d'à peu près un tiers par rapport à ce qu'on utilise chez les enfants plus grands, qui font plus de 12 kilos, par exemple, on utilise par mètre carré. Chez les petits, on utilise par poids, et ça réduit les doses. Chez les tout petits, chez les nouveau-nés, quand on a besoin de faire un traitement, on utilise des doses encore réduites.
Et il y a les traitements particuliers, la prise en charge et les services aussi. On n'est pas accueilli de la même façon en oncopédiatrique, quand on est chez les adultes, il y a vraiment toute une prise en charge qui est particulière, singulière.
Alors, c'est très singulier parce qu'il y a un environnement. Hein. C'est-à-dire que on peut pas être soigné dans un environnement de cancérologie adulte quand on est un enfant. Ça n'a pas de sens de le faire dans ce cadre-là.
Et justement, est-ce que ça concourt pas aussi au progrès de la médecine, de soigner différemment, d'accueillir, de rassurer différemment? Est-ce que ça concourt pas? Bien sûr, on peut pas avoir d'études scientifiques pour le quantifier, mais quand même.
Le principe est clair, c'est qu'on ne soigne bien les pathologies que celles qu'on connaît bien. Et les pédiatres oncologues sont des gens qui sont spécialisés dans ces pathologies. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'environnement. Je le disais à l'instant, mais pour le détailler. L'environnement, il faut que l'environnement de l'hôpital, où un enfant ou un adolescent est soigné, se rapproche le plus possible d'une vie normale. Même si les traitements sont pas toujours faciles à tolérer, et même si les effets secondaires de ces traitements sont très difficiles, en particulier dans les lymphomes de Burkitt, c'est connu, il faut que l'environnement soit le plus proche possible. Il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait de quoi jouer, il faut qu'il y ait de quoi faire des choses avec ses camarades. Il faut avoir des liens aussi avec l'extérieur. Pas comme si on était enfermé dans un endroit où on était seul.
Bâti sur votre vécu, hein, votre expérience en tant que patient, dans le service où vous étiez pris en charge, vous en gardez quel souvenir ?
C'était assez, c'était particulier, mais dans le bon sens. C'est que pour un endroit où on traite les maladies type cancer, je trouvais que c'était un endroit, en tout cas le service de pédiatrie de Curie, qui était très positif en fait. C'est la différence peut-être avec un service adulte où peut-être les gens sont plus négatifs, plus blasés parce qu'il y a un côté très grave.
Et vous aviez 20 ans, donc oui. Malgré tout, c'était important d'être encore considéré comme un jeune.
C'était ma médecin, Madame Pacman, qui souhaitait que je sois en pédiatrie parce qu'à 20 ans, j'étais pile entre deux chez les jeunes adultes, etc.
C'est toujours un petit peu compliqué cet âge de passage entre les deux.
Et du coup, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y avait des enfants bien plus jeunes que moi, qui avaient des pathologies parfois bien plus graves que moi, et on sentait pas, en fait, il y avait pas cette atmosphère nécessairement de souffrance. Je sais pas si vous ce que je veux dire. Enfin, il y avait un côté.
La vie continue.
Voilà, exactement, la vie continue. Et c'était assez impressionnant quand même à Curie de voir ça, notamment en pédiatrie, quoi.
Vous êtes passé par quel traitement, Baptiste ?
J'ai fait de la chimiothérapie pendant un peu plus de 6 mois, puis après j'ai eu des doses de radiothérapie localisées sur 2 mois étalées.
Est-ce que vous avez souffert ? Est-ce que vous avez connu la douleur ? Est-ce que vous avez connu des effets des traitements directement au cours de cette hospitalisation ?
Il y a eu la perte de cheveux. Après, en termes de douleur, j'ai eu des douleurs nerveuses à des moments. Qui était dû à la chimio. Après, j'ai par exemple pas eu de nausées, ce qui a pas mal étonné ma médecin à l'époque. Donc oui, pas forcément de nausées, de la fatigue, l'anémie, tout ça, etc. L'aplasie, ça évidemment que j'en ai eu. Mais après, c'était non, j'ai la douleur était peut-être plus psychologique quand à 20 ans on doit freiner tout ce qu'on a à faire, enfin tout ce qu'on a envie de faire. C'était plus psychologiquement que ça a été dur, parce que physiquement, en fait, je m'étais, comme mon médecin, mes médecins m'avaient dit, c'est quelque chose de dur, mais tu vas passer outre ça. Je m'étais vraiment mis une carapace de, je vais y arriver, et donc, du coup, la vie continuait, donc, physiquement, j'écoutais mon corps parce qu'il fallait que je l'écoute, mais je me disais, je vais passer outre et je vais écouter mon cerveau avant d'écouter mon corps. Pour rendre visite à de la famille, des amis, continuer de vivre normalement.
Et l'accueil du résultat, quand on vous dit, tu as perdu tes cheveux, tu t'en as bavé, même s'il n'y a pas une nausée, t'en as bavé quand même, désolé. Et là, ça a marché tout ça.
Ah oui, ça a marché. Donc du coup,
mais comment ça se passe l'annonce ? Parce que on dit souvent, le corps médical doit prendre des précautions pour un diagnostic. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on met les mêmes formes, docteur Michon, pour annoncer que finalement tous ces efforts, toutes ces contraintes, toute cette épreuve finalement à payer.
Mais les efforts ne sont pas présentés de la même manière lorsqu'on a des raisons de penser qu'on va arriver à guérir. Mais ça n'empêche, même si on pense qu'on va arriver à guérir, on est dans une intention de guérir, mais il y a quelques patients qu'on n'arrive pas à guérir. Donc je pense qu'il faut garder une grande prudence. Mmh. Et quand la situation est plus difficile, je pense que... C'est-à-dire, quand je dis qu'elle est plus difficile, c'est-à-dire que la probabilité, la chance qu'on a que la personne puisse guérir est moindre, si elle n'est pas nulle, je pense qu'il est très important de garder aussi cette intention de guérir et de la transmettre à la personne qu'on soigne. Moi, je dis toujours que quand quelqu'un me demande un pourcentage, je dis toujours, le pourcentage n'a aucun sens, puisque même si vous avez une maladie dont la probabilité de guérison est de 90%, si vous êtes dans 10%, c'est 100% qui n'est pas guéri. Hein. C'est vous qui êtes pas guéri. Et pareillement, si vous avez une pathologie pour laquelle la chance de guérison est de 40%, ou même de 10%, il vaut mieux être dans les 10% par rapport aux 90% qui ne guérissent pas. Et vous pouvez être aussi dans ces 10% et il faut qu'on aille comme si on y allait. Ce qu'il y a, c'est que c'est particulièrement difficile. Il faut être très prudent dans toutes ces histoires de pronostics ou diagnostics. Par contre, La question qui se pose, c'est quand le temps passe après, c'est comment est-ce qu'on chemine vers la guérison? Je pense que ça, vous avez des questions à nous poser là-dessus.
Sur le suivi, sur la surveillance et tout le temps après, malgré tout, je veux revenir à ce moment. C'était quel lieu? C'était quel jour? Est-ce que tout ça, ça reste comme, on imagine au cinéma, comme un flash? Le jour où on m'a dit, ça y est, t'es guéri?
C'était dit avec un peu de prudence aussi, parce que on est surveillé quand même. Enfin, j'ai eu mon dernier rendez-vous de contrôle officiel, sachant que c'est pas vraiment le dernier, mais le dernier qui surveillait la maladie en août dernier, donc 5 ans plus tard. Où je sais qu'on m'a parlé de guérison un an après la fin de mes traitements en 2014-2015, mais que là en août dernier le médecin m'a dit là a priori vraiment de ce que j'ai vu on peut dire que c'est rémission complète. Donc même 5 ans après, il y a non pas d'hésitation, mais je pense qu'il s'est dit avec des pincettes,
une intelligente prudence.
Voilà, c'est ça. On vérifie quand même que tout va bien, parce que c'est quand même une maladie un peu vicieuse qui peut parfois se retourner, etc.
Et depuis, ce qui vous occupe, alors c'est la création musicale.
C'est ça. Ouais.
Et on va justement écouter ce que ça donne. Inner battle, bataille intime, est-ce que votre expérience vous inspire pour vos créations musicales ou pas du tout?
Alors, celle-là, ce morceau-là qu'on entend, c'est avec mon groupe Yerek, du coup. Elle a été écrite bien après, mais oui, après, ça m'inspire. Enfin, l'expérience en elle-même inspire, parce qu'elle forge, en fait. Elle forge, donc du coup, il y a toujours des souvenirs ou même des émotions qui restent et dont on se souvient et qui...
Docteur Jean Michon, depuis le début de cette émission, on emploie 2 termes en alternance. Alors, je ne sais pas si c'est correct. Guérison, rémission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Qu'est-ce qu'il est correct d'employer?
Ça dépend à quel moment on est dans l'histoire. On peut être de certains cancers, on est en rémission, si c'est un cancer qui s'opère, même si on fait de la chimiothérapie après, on est en rémission dès que l'intervention a eu lieu. Même si on consolide la rémission par une chimiothérapie qu'on fait après. La guérison, c'est lorsqu'il s'est passé suffisamment de temps avant, entre la fin du traitement et le moment où on parle, et qu'il n'y a pas eu de rechute. S'il n'y a pas eu de rechute dans certaines maladies, par exemple dans le lymphome de Burkitt, s'il n'y a pas eu de rechute dans la première année suivant soit le diagnostic, soit la fin du traitement, on considère qu'on est guéri. C'est-à-dire que le lymphome de Burkitt, c'est une maladie qui évolue tellement vite que si on ne voit pas de signe de récidive, dans des périodes assez proches de la fin du traitement, on est rassuré.
Pour chaque maladie, comme ça, on établit une sorte de palier.
Il y a un palier, oui. Ouais. Et puis il y a surtout, et ces paliers, on les connaît, on peut les décrire en fonction de l'expérience qu'on a sur des cohortes de personnes traitées et sur l'absence d'événements de cancer qui revient à partir d'un certain temps. Il y a d'autres maladies où c'est difficile de dire. On dit 5 ans, mais peut-être que c'est 8 ans, peut-être que c'est 10 ans, peut-être que c'est 2 ans. Mais on ne peut pas faire des statistiques par personne.
Sémilé Osberg, la dernière chimiothérapie pour Ahmed, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit que c'était au printemps 2017, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors aujourd'hui, le suivi de votre fils, il consiste en quoi?
C'est les visites annuelles. Maintenant, on est passé à 1 an. Donc maintenant, tous les ans, il va voir Monsieur Michon avec un écho-cœur. Donc vu le traitement qu'il a eu, tous les ans, on est obligé de faire un écho-cœur pour vérifier l'état de son cœur.
Et aujourd'hui, sinon, c'est un pédiatre de ville ou un médecin de ville, un médecin généraliste.
Notre médecin généraliste,
le médecin de famille,
qui avait soupçonné cette maladie au début. Donc on est fidèle à lui et on le garde.
C'est lui qui a bien repéré, qui a bien diagnostiqué.
Oui.
Donc c'est aussi important de garder cette relation de confiance avec ce médecin qui est...
Surtout que même maintenant, depuis la maladie à Ahmed, même un week-end, si j'ai un doute et que je l'appelle, il va me répondre. Je vais lui envoyer un petit texto ou si j'ai les examens à Ahmed, je vais les prendre en photo, je vais lui envoyer, il va tout de suite retourner vers moi. Ou c'est lui-même qui va m'appeler en me disant, est-ce que vous avez les résultats à Ahmed ? Donc, et ça, ce lien, je préfère le garder.
Ahmed, qu'est-ce que vous ressentez quand vous retournez, justement, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de le faire, mais retourner à l'hôpital pour ces visites, on va dire, de contrôle. Qu'est-ce que ça fait de repousser la porte de cet hôpital où on a été soigné? Est-ce que ça rassure ou finalement, est-ce que c'est plutôt énervant?
Ça rassure, parce que ça a dû qu'on est rentré, donc... On rentre dans l'hôpital pour un contrôle. Ça fait qu'on va repartir après.
Avec aussi les soignants sur place qui sont contents de vous voir, de voir non seulement que ça va bien, mais c'est vrai que quand on est resté 6 mois à l'hôpital, ça tisse des liens et que la relation, elle change quand on a passé du temps à l'extérieur, qu'on est retourné à l'école et qu'on a des choses nouvelles à raconter de soi-même.
Oui.
Vous racontez quoi? Ça y est, je suis tombée dans le piège. Vous racontez quoi, justement, quand vous retournez à l'hôpital? Est-ce que vous retrouvez, par exemple, des infirmières?
Quand je retourne à l'hôpital, oui. Y en a des fois, mais des fois ça change. En fait, des fois ils sont très contents de me revoir. Ils disent enfin ça y est, t'es guéri.
Vous avez eu le sentiment, Sémilé Osberg, de voir en quelque sorte le travail de cette équipe, mais aussi toutes les relations qui se sont établies dans ce service de pédiatrie, justement, avec les autres mamans aussi, avec qui, certainement, vous avez partagé beaucoup de moments.
On est toujours en contact avec certaines mamans. On est toujours... On demande des nouvelles des enfants. On se donne des nouvelles. On s'envoie des photos, comment ils ont changé, comment ils évoluent. Et ça, on passe tellement de temps là-bas qu'on devient une famille, en fait. Moi, personnellement, j'avais l'impression que ma propre famille ne me comprenait pas. Quand on parlait de la maladie d'Ahmed, j'avais l'impression qu'ils ne me comprenaient pas. Tandis que quand je parlais avec les autres mamans là-bas, on est dans le même bateau, en fait.
On est une communauté.
Voilà, on se comprend mieux.
Alors, guérir ou être en rémission, ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus de traces, on va dire, ces fameuses séquelles, hein, signes de la maladie, docteur Jean Michon. Est-ce que certaines séquelles sont propres à certains traitements, voire même à certaines maladies?
Oui, naturellement. Il y a des séquelles qui sont dues au traitement, ça vous l'avez très bien dit, on en a parlé un petit peu, la maman d'Ahmed en a parlé également. Il y a des séquelles qui sont dues à la maladie et au lieu où était située la maladie. C'est-à-dire que quand on a une tumeur cérébrale et qu'on a eu de la radiothérapie, ça laisse des séquelles à la fois par la maladie elle-même, qui a pu détériorer des zones du cerveau, la chirurgie qui, en passant, a pu en abîmer également, et la radiothérapie qui n'est pas anodine chez des cerveaux en croissance. Donc le type de séquelles est tellement variable.
Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles à retardement?
Alors, il y a certaines séquelles qui s'établissent avec un peu de temps, en particulier les séquelles sur l'audition que l'on voit avec certains traitements, hein, pas tous les traitements, je vous rassure, mais des traitements qui peuvent abîmer l'audition et pour lesquels, je dirais, il faut à peu près 2 à 3 ans pour être sûr que c'est stabilisé. mais on peut avoir une aggravation retardée par rapport à l'administration du médicament. Et ce qui est important, c'est de suivre ces séquelles, parce que certaines fois, on peut appareiller et donner une prothèse auditive à un enfant qui en a besoin, et en particulier au moment de l'âge, de l'acquisition de la parole, c'est très structurant d'avoir une bonne audition. Hein. Et si on n'a pas une bonne audition et qu'on rate le moment, on peut avoir des séquelles beaucoup plus graves et tardives.
Alors, question personnelle, bien évidemment, je vais la poser à chacun d'entre vous. Si vous ne voulez pas répondre, c'est tout à fait votre droit le plus légitime. Ahmet, est-ce que tu sens aujourd'hui dans ton corps ou dans ton esprit des traces encore de ta maladie ?
Dans mon corps, non, mais dans mon esprit, un peu. Enfin, je pense encore un peu au moment où j'étais à l'hôpital. Et bah...
Est-ce que tu aurais besoin d'en parler à quelqu'un, ou est-ce que ça va avec ta famille, ton frère, ta sœur aussi, qui était très présent quand tu as été malade? Est-ce que tout ce petit groupe autour de toi, ça suffit justement quand il y a un petit moment où ça va pas pour en parler? Ou des fois, tu te dis, j'aimerais bien parler à quelqu'un d'autre?
Non, ça va des fois. Bah... En fait, c'est... Comment dire? C'est... Des fois, j'ai pas besoin d'en parler. Parce que je me dis dans ma tête que c'est passé et que bah vaut mieux pas reparler de ça. Et si on parle que parler des choses positives. Et
mais ça te laisse pas quelque chose au fond du cœur qui est un petit peu lourd? Tu dis finalement j'essaye de voir les choses en couleur, mais il y a un petit peu de noir et blanc qui reste au fond de toi.
Bah si, bah pendant 6 mois, c'est ce qui m'avait un peu qui m'avait un peu dérangé. Pendant 6 mois, j'ai pas pu voir ma famille, mes amis. C'est ça qui...
Ça donne envie vraiment de profiter, une fois qu'on est sorti, de profiter de tout ça. Oui. Baptiste, des séquelles encore aujourd'hui? Une prise en charge particulière, peut-être, en dehors de l'hôpital?
Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, physiquement, il n'y a pas de séquelles. C'est peut-être plus, oui, psychologique, des souvenirs parfois, mais après, faut aussi voir le... Enfin, c'est comme ça que je le vois. Le bon côté, c'est qu'il y a le mauvais souvenir noir et blanc, mais il y a aussi le côté, c'est une expérience de vie qui forge énormément, donc maintenant il y a des souvenirs, etc., mais il faut aussi garder, enfin il y a aussi l'après, voilà, on est content parce qu'on est guéri, et voilà quoi, donc c'est...
On reste ensemble, là on va tout de suite partir pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Gabriel Chantal Bouda, bonjour.
Bonjour madame Paris.
Vous êtes pédiatre.
Bonjour toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Tout le monde est
bonjour.
À l'écoute.
Bonjour Chantal.
Pédiatre au CHU bonjour. Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Alors, depuis le début de cette émission, on parle bien sûr guérison, rémission des enfants traités pour des cancers. Docteur Gabriel Chantal Bouda, sur quel type de maladie précisément vous êtes amené à intervenir? Quel type de cancer soignez-vous dans votre CHU?
Alors, merci bien. Disons que nous soyons à Ouagadougou principalement des lymphomes de Burkitt, qui représentent la majeure partie des enfants souffrant de lymphomes que nous recevons. Donc 9 enfants sur 10 qui viennent pour un lymphome, il s'agit d'un lymphome de Burkitt.
Et comment arrivent ces enfants jusqu'à votre consultation hospitalière? Qui vous les adresse?
Habituellement, il s'agit d'enfants qui ont déjà été vus en périphérie par des infirmiers ou alors des médecins de proximité et qui sont référés à notre niveau. Mais il arrive également que nous recevions des patients qui viennent directement parce que les parents ont constaté une anomalie, une tumeur qui pousse quelque part sur l'enfant et ils viennent consulter d'eux-mêmes. Mais dans la majorité des cas, il s'agit de références.
Ça veut dire, docteur Bouda, qu'il y a un certain nombre de parents qui sont quand même informés, qui ont quand même des indications sur certains symptômes.
Exactement. Il y a certains parents qui savent déjà que les signes que l'enfant présente ne sont pas des signes.
C'est pas quelque chose de normal. Il y a une autre maladie, on va dire, plus ordinaire. Alors, quel type de prise en charge est-ce que vous proposez, docteur Bouda?
Alors, le traitement des lymphomes de Burkitt est quasi exclusivement médical, médicamenteux. Donc, on fait de la chimiothérapie et selon des protocoles que nous partageons avec un certain nombre de pays francophones, dans le cadre du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Et les anticancéreux sont donnés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique.
Avec donc une coopération, est-ce que vous constatez des obstacles importants à cette prise en charge ? Question très concrète, les parents payent-ils ces soins ? Comment est-ce qu'ils font, justement, s'il y a d'importantes dépenses financières ? On imagine bien qu'au Burkina, c'est pas quelque chose de simple.
Alors, les parents supportent la majeure partie des frais liés aux soins des enfants. Parce qu'en dehors des anticancéreux qui sont octroyés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, pour ce qui est de la réalisation des bilans, l'achat des solutés et la réalisation d'autres examens ou l'achat d'antibiotiques parfois, ça relève des parents. Et il n'y a pas de système d'assurance santé chez nous. Donc en dehors de quelques patients qui peuvent bénéficier de la gratuité des soins, qui concernent les moins de 5 ans, et là également, il n'y a pas tous les produits nécessaires. Tous les autres, ce sont les parents qui sont obligés de faire les frais.
Est-ce que vous avez été confronté à des cas de parents qui étaient contraints de renoncer à ces soins faute d'argent ?
Disons que nous avons un taux d'abandon assez important. Un enfant sur cinq à peu près abandonne les soins. Et dans la majorité des cas, il s'agit de problèmes socio-économiques. Donc, parce que les gens sont à court d'argent, ils sont obligés de repartir, ils ne peuvent pas assurer la prise en charge des enfants. Donc un enfant sur cinq abandonne les soins pour des raisons économiques essentiellement.
Et c'est une tragédie. Docteur Gabriel Chantal Bouda, quel message est-ce que vous voulez transmettre à nos auditeurs aujourd'hui ?
Alors, le message que je peux donner à l'endroit des parents, je les invite à être beaucoup plus regardants vis-à-vis de la santé de leurs enfants. Et dès lors qu'ils constatent une anomalie, notamment le lymphome de Burkitt se manifeste, il y a deux manifestations principales. Soit c'est au niveau du visage, soit c'est au niveau du ventre. Quand on constate que quelque chose gonfle au niveau du visage ou au niveau du ventre, qu'ils aient le réflexe de consulter au plus tôt pour que l'enfant soit pris en charge au plus tôt. Et à l'endroit du personnel de santé, ceux qui sont le plus en contact avec les patients, les premiers contacts, qu'ils soient plus prompts à référer les enfants dans des structures de prise en charge adéquates. Parce que présentement, la prise en charge se fait à Ouagadougou, c'est deux hôpitaux. Donc, qu'ils aient le réflexe d'envoyer les enfants au plus tôt.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Gabriel Chantal Bouda, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Je rappelle que vous êtes pédiatre au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On l'a bien entendu en écoutant le docteur Bouda, docteur Jean Michon, importance, très grande importance de la précocité du diagnostic.
Arriver avec une maladie qui a déjà disséminé dans l'organisme de façon importante et en particulier au niveau du système nerveux central quand on a un lymphome de Burkitt, c'est une condamnation à mort dans des pays comme celui où exerce le docteur Chantal Bouda. Parce qu'on ne peut pas administrer des traitements qui, en Europe, permettent de guérir de l'ordre de 75 à 80% de ces patients. Qui ont des atteintes méningées. Donc, elle l'a très bien expliqué. Hein, les deux éléments qui sont limitants sont les éléments de diagnostic tardif et d'abandon de traitement. Il y a le troisième élément qu'elle a également cité, c'est la problématique du coût, du reste à charge pour les familles. Parce que même si ce reste à charge est faible par rapport à ce que ça pourrait être, parce que le coût de la vie est moindre. Ces non. produits-là sont très 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 coûteux et par rapport à la moyenne nationale de salaire
pour l'essentiel des gens au-dessus. C'est inabordable.
Donc on peut avancer dans les pays concernés comme le Burkina Faso grâce à des aides qui sont des aides que peuvent donner des charités ou autres, mais il faudrait à terme que un les médicaments soient fournis par les gouvernements.
Et la couverture santé.
Et que la couverture santé existe pour les produits de première nécessité. Les aiguilles, hein, pour perfusion, les solutés de perfusion sont payées par les parents.
Alors, on va parler d'un aspect, il nous reste quelques minutes seulement, qui peut paraître pas forcément lié aux préoccupations sanitaires, mais c'est important quand on guérit, quand on va grandir après une maladie. Cette question, c'est celle du droit à l'oubli, docteur Jean Michon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce droit à l'oubli, en particulier pour, après un cancer pédiatrique ?
Alors, quand on est un adulte et qu'on veut s'installer dans la vie, ça arrive de faire des emprunts. Quand on veut faire des emprunts, on va vers une banque et on remplit un contrat d'assurance pour l'emprunt. Dans ce contrat d'assurance, on doit déclarer ce qu'on a eu comme problème de santé. Le grand pas en avant qui a été réalisé il y a maintenant un peu plus de 5 ans, enfin à peu près entre 4 et 5 ans, a été le fait de mettre dans la loi le fait qu'on ne soit pas obligé de déclarer cette maladie qu'on a eue dans l'enfance si on a eu un traitement avant l'âge de 18 ans et qu'on est à 5 ans de la fin de ce traitement. Alors que pour les cancers qui surviennent après 18 ans, il faut attendre 10 ans. Mais ce droit à l'oubli, on revendique aussi pour les patients qui ont été soignés entre 18 et 25 ans, donc des jeunes adultes, parce qu'ils ont des chances tout aussi élevées d'être guéris en 5 ans, et qu'il faut pouvoir leur donner ce droit. Donc ça, c'est une revendication très importante de pouvoir emprunter, mener une vie normale, la plus normale possible, hein, en fonction de ce qu'on a comme trace des traitements et de la maladie, à l'âge adulte, quand on a été soigné dans l'enfance ou quand on est jeune adulte.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va parler juste en quelques mots de vos projets. Ahmed, bien sûr, c'est encore le collège ?
Oui, troisième.
Troisième. Est-ce qu'il y a des projets pour après, déjà, plutôt scientifiques, plutôt littéraires, voire même un métier ?
J'hésite entre le métier de coiffeur ou d'architecte.
Ah bah, c'est très différent, mais en même temps, c'est du concret, hein, c'est fabriquer des choses, c'est quelque chose qui donne des résultats. C'est quoi ce qui t'attire, par exemple, dans l'architecture ?
C'est, bah, en fait, on est à l'intérieur, on dessine, on choisit nos heures, et, en fait, je suis agile avec les mains. C'est-à-dire, je dessine bien, donc je fais le métier d'architecte, c'est juste les mathématiques, la physique chimie et les dessins.
Donc, ce qui vous plaît, j'ai glissé vers le tutoiement, j'ai pas pu m'en empêcher. Baptiste, on a entendu la musique tout à l'heure, vos occupations, votre quotidien, c'est cette musique, cette création, oui. c'est votre métier aujourd'hui ?
Oui, j'essaie de toucher un peu à tout, je fais aussi un peu de ingé son, etc. Et on fait des concerts avec mon groupe qu'on a écouté tout à l'heure. Demain, d'ailleurs, on est en concert à la Péniche Anaco, au bord du canal de l'Ourcq à
20h30. Et c'est à Paris, donc on en profite
Paris,
pour passer
voilà.
Une annonce.
C'est ça.
Et on arrive à la conclusion de cette émission. Merci, hein, merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, Sémilie Osberg, d'avoir témoigné sur votre vécu de maman. Merci beaucoup à votre fils Ahmed. Merci à tous les deux d'être venus ici. Et ainsi qu'à vos enfants qui nous écoutent depuis la régie de l'autre côté de la vitre. Merci à vous, Baptiste et docteur Jean Michon, pédiatre oncologue à l'Institut Curie, directeur médical et scientifique du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique et la réalise. On se retrouve demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.